dans le domaine des fresques, il y a l'ami de la fresque du climat qu'on appelle la fresque de l'énergie. Bonjour Antoine Rabin.
Bonjour.
Vous êtes le président de Geckosphère et co-auteur de la fresque de l'énergie. Et vous nous avez fait une présentation ici de la conférence sur l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez justement me décrire ce qu'est la fresque de l'énergie ?
Déjà, merci de me poser cette question. Et je vais reprendre un peu l'introduction que j'ai utilisée ce matin dans la keynote, où finalement, comme vous venez de le dire, la fresque de l'énergie, elle repose en fait sur le succès de la fresque du climat, c'est-à-dire mettre autour d'une table des gens et de discuter de faits scientifiques avérés autour d'un sujet, donc l'énergie pour la fresque de l'énergie, et de leur poser des questions sur ce que ça veut dire pour eux. Donc la fresque de l'énergie, c'est un dispositif qu'on peut appeler jeu sérieux ou serious game en mauvais français, qui vise finalement à revoir et revisiter, ou visiter, ça dépend d'où on part, les fondamentaux du secteur énergétique et ses enjeux de transition pour derrière dégager un espace de discussion serein pour parler du futur de l'énergie et des différentes solutions pour répondre notamment à l'accord de Paris.
Comment se compose-t-elle ? Il y a plusieurs modules.
Alors, à la différence de la fresque du climat, pour le coup, il y a quand même quelques spécificités pour la fresque de l'énergie. C'est qu'aujourd'hui, elle a été structurée par ses 7 co-auteurs, dont je fais partie, en 5 modules indépendants. C'est-à-dire que chacun des modules sont des thèmes structurants du domaine de l'énergie et on peut visiter tout ou partie de ces modules. C'est-à-dire qu'on peut faire des fresques rapides, en une heure et demie, en faisant par exemple que 2 modules. Et on peut faire la version évidemment complète.
La version longue.
La version longue, ouais, qui dure 3h30 au moins, quand on ne la personnalise pas, et qui fait 5 modules. Et il y en a même un petit 6e qui va sortir en début d'année prochaine. Donc chaque module, c'est une thématique structurante du domaine de l'énergie qui permet de révéler des contraintes et des opportunités en termes de transition énergétique.
Donc je peux faire le module 1 ou le module 3 comme je veux.
Absolument.
On va prendre l'exemple du module 1. Qu'y a-t-il dedans ?
Donc à chaque module, ses spécificités et ses thèmes structurants pour mieux comprendre le système énergétique et sa complexité. Le module 1, donc c'est le premier, c'est souvent par celui-là qu'on commence du coup, et par une approche allégorique. On va en fait travailler sur la chaîne de production du pain. Alors, ça peut vous faire sourire éventuellement.
C'est basique le pain, de l'eau, de la farine, de la levure
alors,
et de la chaleur.
C'est effectivement assez basique et on le produit depuis très longtemps. Alors, je ne sais pas si le vernis franco-français des 7 co-auteurs ont fait qu'on a voulu traiter ce terrain-là, on va dire, pour ouvrir la fresque, mais il amuse souvent beaucoup. Et derrière, en fait, on comprend la manière dont on produisait le pain en 1750, avant la révolution des fossiles, et comment on peut le produire sous une approche industrielle aujourd'hui dans notre monde moderne, et de regarder les écarts qu'il y a, à la fois évidemment la grande efficacité qui s'est emparée finalement des différentes briques du processus de transformation pour arriver au pain, mais aussi des phénomènes de dépendance ou de monodépendance qu'il peut y avoir sur telle ou telle brique et que l'éclatement des distances aussi entre les différentes briques de production génère en fait un système de contraintes qui est totalement nouveau et qu'il faut savoir appréhender.
Oui, parce qu'entre le pain qu'on fabriquait au XVIIe siècle et aujourd'hui, on ne consomme pas du tout la même quantité d'énergie.
On ne consomme pas du tout la même quantité d'énergie et ça ne compense pas d'ailleurs tout à fait le même menu puisque je ne sais pas si vous avez ce chiffre-là en tête, mais en 1750, le pain représentait 50% des apports en calories d'un citoyen français. Aujourd'hui, c'est moins de 10%.
C'est ce que j'allais dire, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ah, j'ai appris aussi une chose, c'est qu'il y a plusieurs hydrogènes, tout du moins plusieurs manières de fabriquer de l'hydrogène. Donc il y a tout un arc-en-ciel. Dites-moi en plus là-dessus.
Je vais commencer par la couleur historique de l'hydrogène, celle qu'on connaît le mieux, celle qui représente encore plus de 95% de la production d'hydrogène pour ses applications industrielles actuelles. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène marron. L'hydrogène marron, ou noir ou gris aussi quand ça vient du charbon, mais surtout l'hydrogène marron, c'est finalement craquer la molécule de méthane, le CH4, qui est rien d'autre que notre gaz fossile, qu'on appelle encore gaz naturel parfois, mais c'est du gaz fossile, c'est l'une des 3 énergies fossiles. Il y a le pétrole, le charbon et le gaz fossile. Et ce CH4, on le craque pour faire de l'H2, du dihydrogène, c'est bien notre molécule dont on parle, et à côté du CO2. Et ça, c'est très émetteur en termes de CO2 et donc de gaz à effet de serre, donc très contributeur de l'effet de serre additionnel et du dérèglement climatique. Donc on cherche évidemment à décarboner la manière de produire de l'hydrogène pour rendre cet hydrogène compatible avec les exigences climatiques. C'est de là d'où va naître plusieurs autres couleurs dans l'hydrogène, notamment la première qui vient, c'est aujourd'hui l'hydrogène bleu, dont on entend beaucoup parler dans ce salon Horizon Hydrogène aujourd'hui.
À ne pas confondre avec le grand bleu.
Alors voilà, ce n'est pas du tout de l'hydrogène qui provient des fonds marins. On inventera une autre couleur peut-être pour celui-là. Non, non, l'hydrogène bleu, c'est tout simplement avoir une technologie qui va permettre de capter et soit ensuite de valoriser ou de séquestrer le CO2 qui est émis pendant le process de transformation du vaporéformage du gaz fossile en production hydrogène. Donc on capte finalement le CO2 et au lieu de le laisser s'en aller dans l'atmosphère, on le capte et soit on le met sous terre, soit on le valorise pour d'autres applications. Et ça, ça devient de l'hydrogène marron décarboné, en quelque sorte, ou faiblement carboné. Et ça, c'est donc de l'hydrogène bleu. Ensuite, vient pour moi deux autres couleurs assez importantes qui structurent beaucoup d'ailleurs la stratégie française en matière de filière hydrogène aujourd'hui et au niveau européen. C'est évidemment l'hydrogène vert dont on parle le plus, qui est en fait de la production d'hydrogène qui nécessite de l'électricité via l'électrolyse de l'eau. Et cette électricité, elle doit être nécessairement d'origine renouvelable pour pouvoir appeler cet hydrogène hydrogène vert.
Donc éolienne, photovoltaïque,
hydroélectricité et j'en passe. Et puis corrélé à ça, pour toujours rester dans les hydrogènes bas carbone, il y a ce qu'on appelle l'hydrogène jaune, parfois on dit rose aussi, qui est l'hydrogène, en fait, toujours par l'électrolyse de l'eau, qui est issu d'une électricité électronucléaire. Donc ça, ce n'est pas une énergie renouvelable. Le nucléaire n'est pas renouvelable, il est éventuellement recyclable, mais il n'est pas renouvelable. Et cet hydrogène qui est faiblement carboné au final provient de l'électrolyse de l'eau issue d'électricité électronucléaire.
Et il y a une couleur que j'adore beaucoup, qui est la couleur de la pureté, c'est l'hydrogène blanc.
Alors l'hydrogène blanc, effectivement, assez curieusement d'ailleurs, c'est un des plus nouveaux.
Des derniers.
Mais un des plus naturels, entre guillemets, puisque justement, en fait, on est en train de découvrir et de qualifier, et c'est tout l'enjeu là en ce moment, c'est qualifier le niveau de ressources qu'il peut y avoir à extraire de l'hydrogène naturel enfermé dans des réservoirs, comme on le fait en fait pour le fameux gaz fossile depuis plus de 150 ans. Et il y a des réservoirs aujourd'hui qu'on est en train de qualifier en volume, notamment en Afrique, au Mali, mais aussi en France, en passant, où demain, on pourrait techniquement et économiquement rendre viable l'extraction d'hydrogène naturel pour toujours utiliser cette molécule dans nos applications existantes et nouvelles. Et ça, ce serait de l'hydrogène blanc.
D'autant plus que j'ai appris qu'il était renouvelable. Il se régénérait naturellement.
Tout à fait. Donc ça, c'est encore en fait des questions. Donc je manque d'éléments un peu scientifiques probants pour totalement valider la phrase que vous venez de dire. Mais effectivement, potentiellement, ça pourrait être de l'hydrogène qui pourrait sortir comme ça du fond de la croûte terrestre et qu'on pourrait extraire de manière continue avec une ressource renouvelable. Mais là encore, soyons un petit peu prudents parce qu'aujourd'hui, on est encore dans la qualification de ces réserves et notamment de son volet renouvelable.
D'accord. Monsieur Antoine Rabin, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous êtes le co-auteur de la fresque de l'énergie, président et fondateur de Gécosphère. Merci pour toutes ces informations sur l'hydrogène. C'est très intéressant. Moi, je suis content de vous avoir rencontré effectivement ici au salon Horizon Hydrogène dans le cadre du climat. Franchement, c'est extraordinaire. Il y a un potentiel en France qui est superbe.
Merci de votre invitation. Merci. Et n'hésitez pas à venir goûter à la fresque de l'énergie quand vous le voulez, notamment dans un atelier citoyen, puisque nous sommes aussi une association et nous avons aussi un temps citoyen pour animer des fresques de l'énergie auprès des citoyens français et internationaux.
Je vous renvoie sur le site internet Gécosphère, et puis rendez-vous au prochain salon.
Avec grand plaisir.
Merci Antoine, au revoir.